Nous arrivons donc à la dernière partie de notre journée. Je vous loue de votre attention tout au long de la journée. Cela dit, il faut être raisonnable. La dernière partie était très copieuse là, mais je pense qu'on va tailler un petit peu parce que bon, il faut tenir compte de votre capacité d'écoute, de concentration. Nous allons examiner ce que l'Écriture dit concernant l'Église de Philadelphie et de Laodicée, qui sont la sixième et la septième Église dans les messages prophétiques de Christ aux Églises d'Asie mineure. Nous allons prendre le temps, parce que c'est cela qui est important, de lire dans l'Apocalypse, au chapitre 3, et au verset 7. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Juste une petite parenthèse pour la longueur de nos réunions. Je crois que de tels séminaires sont formidables parce que c'est un temps où on peut être tranquille, réfléchir ensemble devant la face de Dieu. J'ai toujours été impressionné en lisant les récits des réunions de l'Église primitive, notamment quand l'apôtre Paul se trouve à un certain endroit, il prêche jusqu'à minuit. Eutychus, sur le rebord de la fenêtre, tombe du troisième étage en bas, mort, il est ramené à la vie, et Paul n'a pas dit à l'auditoire « Excusez-moi, j'ai été trop long ». Le jeune homme est revenu à la vie, il prolonge son discours jusqu'au matin. Mais enfin, rassurez-vous, on ne va pas enchaîner avec le culte, on va quand même aller manger et dormir. Alors, Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Philadelphie ou Laodicée. Nous avons ici, avec Philadelphie et Laodicée, les deux derniers messages prophétiques de Jésus-Christ adressés à cette église d'Asie mineure, la Turquie de M. Erdogan d'aujourd'hui. Ça nous parle. Ça nous parle. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et je le disais à table avec mes enfants hier soir, nous pouvons faire quatre lectures différentes des messages prophétiques de Jésus aux églises d'Asie mineure. La première lecture, je l'appellerai la lecture historique, c'est-à-dire que je replace les choses dans le contexte historique, je lis le message à Éphèse, adressé à l'église d'Éphèse du 1er siècle. Et ainsi de suite pour les sept églises, c'est la lecture historique. Il y a une lecture que j'appellerais la lecture personnelle, c'est-à-dire que ma position spirituelle personnelle cet après-midi peut ressembler à un tableau dressé par Jésus dans l'un ou l'autre de ces sept messages. Ma vie spirituelle, en toute ou partie, est peut-être le message d'Éphèse. Ma vie spirituelle, en toute ou partie, est peut-être le message adressé à Sardes. Bien. La troisième lecture, c'est de considérer un des sept messages comme la situation d'une église locale actuelle, en toute ou partie. Par exemple, l'église de Grenoble, plus facile à dire que Rennes, rue Eugène Potier. L'église de Grenoble est-elle Éphèse, est-elle Smyrne, est-elle Pergame, etc. C'est une lecture ecclésiale. Et la dernière, et c'est celle qu'on va faire, est extrêmement passionnante aussi, instructive, édifiante, parce que quand on examine le message de Jésus aux sept églises, on s'aperçoit que Jésus dresse un tableau de l'histoire de son Église depuis la fin du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors bien sûr, je n'ai pas le temps, et ce n'est pas mon propos, de vous parler en détail là-dessus, mais c'est extrêmement passionnant de faire cette lecture-là. Alors, simplement brosser un panorama rapide de l'Église au cours des 20 siècles de son histoire. Ça commence par Éphèse. Éphèse représente l'Église des temps apostoliques. Quel est le message prophétique de Christ à cette assemblée? Elle a abandonné le premier amour. C'est-à-dire qu'elle a abandonné l'amour qui faisait de Christ le premier dans sa vie. Elle n'a pas perdu son premier amour. Je perds mon stylo. Je dis, chérie, j'arrive pas à retrouver le stylo. On perd les clés. Souvent, les femmes disent au mari, où as-tu mis les clés? Mais elles sont restées dans ton sac, chérie. Et très souvent, c'est ça. Mais je ne me réveille pas un matin. Je ne me réveille pas un matin en disant « Seigneur, où est-ce qu'est passé mon premier amour? J'ai perdu mon premier amour. » Non, tu l'as abandonné, c'est pas pareil. Et c'est la situation de l'Église à la fin du 1er siècle, où il y avait déjà un sérieux essoufflement. Et ce qui est frappant, c'est que quand vous lisez l'Épître aux Éphésiens, et que vous lisez le dernier verset de l'Épître aux Éphésiens, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Le Saint-Esprit savait ce qu'il disait. Il savait qu'à la fin du siècle, Éphèse abandonnerait ce premier amour. Donc le Saint-Esprit avait averti, mais les chrétiens ne l'avaient pas entendu. Ça, c'est l'Église de la fin du premier siècle. Arrive Smyrne. Alors, le message prophétique de Jésus dépeint la période qui a suivi les temps apostoliques et qui, dans l'histoire de l'Église, a reçu le nom de l'âge des grandes persécutions. Parce qu'en effet, c'est une période longue de plus de 2 siècles et qui prend fin au début du 4e siècle. Et j'en parlerai courtement juste après. Jésus dit à cette Église, vous aurez une tribulation de 10 jours. Or, quand on examine l'histoire de l'Église dans les 2e et 3e siècles, on s'aperçoit qu'il y a eu 10 époques de persécution généralisées, au point que les historiens affirment que l'Église est passée par 10 principales périodes de persécution. Le mot « jour » est à prendre dans le sens, non pas de 24 heures, mais d'une période. Et Jésus avait prophétisé avec beaucoup de précision. Arrive Pergame. Avec Pergame, nous arrivons à la période qui a été appelée la période constantinienne. Excusez-moi de parler comme ça de l'histoire, mais c'est très important ce que je suis en train de dire. L'Empire romain est en train de péricliter. Et l'Église continue d'avancer. Et le diable a trouvé une arme. La conversion de l'empereur Constantin. Une pseudo-conversion. Et que se passe-t-il avec l'édit de Milan en 313? C'est que l'Église, qui jusque-là avait été persécutée, mise sur des croix et servie de petit déjeuner aux lions dans les arènes de Rome, l'Église subitement va être honorée. Parce que l'empereur s'est converti, entre guillemets, au christianisme. Alors les principaux de l'Église sont invités dans les réceptions officielles, politiques, et ils sont très flattés de ça. Et avec ce courant-là, arrive toute l'apostasie dans l'Église de cette période-là. Par exemple, ce n'est pas polémique ce que je vais dire, c'est historique. Toutes les religions avaient une déesse. Le christianisme n'en avait pas. Marie a été trouvée. Et la mariolâtrie est arrivée dans cette période-là. Le culte des saints, la prière aux saints est arrivée dans cette période-là. Avec Pergame, c'est le flot d'une apostasie terrible qui s'est abattue sur l'Église. On arrive à Thyatire. C'est l'Église du Moyen-Âge. Une Église liée au monde, pleine d'adultères spirituels. Je passe rapidement, ce n'est pas mon propos. On arrive à Sardes. C'est l'Église des 17 et 18e siècles. C'est l'Église qui a succédé au grand bouleversement de la Réforme et des guerres de religion. Et c'est une période de mort spirituelle pour l'Église sous l'influence de ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières. C'est le siècle des Lumières. Et il est incontestable que ce que Jésus dit de l'église de Sardes correspond étrangement à cette période-là. Et on arrive à Philadelphie. Alors Philadelphie, on va en parler courtement, mais j'ai plein de choses dans le cœur à vous dire. Philadelphie, c'est l'église du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, Jésus dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de, et non pas à, mais de, le grec dit hors de, l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Excusez-moi, je ne suis pas théologien, je suis un lecteur de la Bible. Je vous dis mon identité cet après-midi. Je suis de ceux qui croient que l'Église ne vivra pas la grande tribulation. Parce que Jésus dit ici qu'il va garder son Église hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, une tentation va venir sur le monde entier, fait nouveau, inouï et terrible. Il s'agit là de la grande tribulation, grande par son étendue. Elle va s'étendre au monde entier et grande par son intensité. Deuxièmement, il est fait mention de l'imminence du retour de Jésus. En 2 phases d'abord, l'Église va être enlevée dans les airs et ensuite Jésus revient sur la terre pour établir son règne de paix, on l'a dit aujourd'hui. Philadelphie, C'est donc l'Église des temps de la fin, et comme on l'a mis sur les invitations pour cette journée, c'est l'Église de la 11e heure. Mais alors, il reste la lettre adressée à l'Église de Laodicée. Si Philadelphie est l'Église du 19e siècle à aujourd'hui, Laodicée c'est quoi ? En fait, il s'agit de deux aspects opposés sous lesquels l'Église des derniers temps va se manifester. Je vous demande de me suivre, c'est très intéressant. Philadelphie, représente la partie de l'Église actuelle qui demeure fidèle au Seigneur. Et vous remarquerez que dans cette lettre de Jésus-Christ, il ne se trouve aucun reproche de la part du Seigneur. Aucun. Fait rare parce que le Seigneur règle ses comptes avec les autres églises, sauf Smyrne qui passe par la persécution. Par contre, il en est tout autrement pour l'église de Laodicée. Elle est sévèrement blâmée et cette église représente la partie apostate de l'église, infidèle du monde dit chrétien. C'est-à-dire que, pour résumer ma pensée, dans le monde actuel, à partir du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui nous arrivons à Philadelphie et Laodicée. Dans l'Église mondiale, il y a une Église fidèle qui est Laodicée, et il y a une Église apostate, ou tiède en tout cas, Philadelphie, et une Église apostate qui est Laodicée. Et ce contraste caractérise de manière frappante ce que nous voyons de plus en plus s'accomplir sous nos yeux. Une opposition qui grandit de plus en plus entre l'attitude de la fidélité, l'attitude de la vérité, l'attitude de la sainteté et celle de l'abandon progressif de ces choses. Et nos églises vivent actuellement ce contraste. Alors le visage de l'église de Philadelphie, très rapidement, quelques points faute de temps. Voici ce que dit le saint, le véritable. L'église était en Christ, avec ces caractères-là. Et cette parole de Jésus sur lui-même est donc un encouragement pour cette église fidèle. Alors que la même parole constitue une menace pour ceux qui se complaisent dans la souillure et le mensonge. Jésus est le saint et le véritable. Tu as peu de puissance. Le texte grec dit « tu as une petite force ». Mais la suite du message prophétique de Jésus nous permet de comprendre ce qu'il dit. Il ne s'agit pas ici de la puissance spirituelle, parce qu'on se rend bien compte que, Philadelphie est forte, il s'agit de la puissance matérielle. C'est-à-dire que Philadelphie, c'est une église qui matériellement, j'allais dire financièrement, peut-être économiquement, est faible, mais spirituellement est très riche. Alors, Philadelphie, c'est l'église d'aujourd'hui, défavorisée sur le plan matériel, mais qui est une église qui avance et qui est conquérante dans le monde. Il suffit de voir le développement de l'église dans les coins défavorisés de la planète pour se dire que là, il y a la marque de Philadelphie. Mais je vais préciser les choses après. C'est une église fidèle à la parole de Dieu. Tu as gardé ma parole. Et Jésus rend témoignage à la fidélité et à l'obéissance de cette église. Ce sont deux vertus de tout vrai disciple. Parce que Jésus dit dans Jean 14, verset 15, verset 21, verset 23, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et dans cette période de l'histoire de l'Église, il y a eu des vagues de réveil magnifiques. Je vous donne quelques petits aperçus pour vous faire, vous donner du chocolat spirituel. En 1858, donc c'est le début de Philadelphie, une action puissante de l'Esprit de Dieu aux États-Unis. L'année suivante, en Ulster, puis au Pays de Galles, en Écosse, et dans différentes parties de l'Angleterre, un souffle extraordinaire de l'Esprit de Dieu. Dieu poursuivait son plan, ramener son peuple au christianisme apostolique. Et l'Église retrouve l'infaillibilité de la parole de Dieu. Elle ne dit pas que la parole de Dieu est dans la Bible, elle dit que toute la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est infaillible. La parole de Dieu est toute suffisance. Toute suffisante, pardon. Et Dieu va utiliser des hommes pour rétablir ces fondements-là. Darby, à qui nous devons une traduction qui porte son nom. George Muller, pour ne citer que cette autre colonne. Ce sont des hommes de l'église de Philadelphie qui ont ramené l'infaillibilité de la parole de Dieu. Cette église est caractérisée par son attachement sans faille à la parole de Christ. Jésus dit, « Tu n'as pas renié mon nom. » Et ce, en face de toutes les oppositions, en face du rationalisme, en face des sectes, en face des moqueries, en face de l'athéisme, en face du déclin moral, l'Église de Philadelphie n'a pas craint de proclamer le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est une Église qui est évidemment récompensée pour sa fidélité. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Le texte grec dit « J'ai donné une porte ». Et nous savons bien par des textes de l'Écriture que quand une porte s'ouvre, le Seigneur parle de victoire dans l'évangélisation. Paul dit que Dieu lui a ouvert une porte à Éphèse. Il y a d'autres textes, je ne prends pas le temps de les lire cet après-midi. Et c'est un fait que les 19e et 20e siècles ont vu de nombreux mouvements de réveil un peu partout dans le monde entier. Moody, dont je vous ai parlé cet après-midi, qui a été appelé le plus grand évangéliste du 19e siècle, des milliers et des milliers de gens se sont convertis par ce ministère d'évangélistes. Du sein de la vague de réveil en Angleterre en 1859, a surgi des hommes comme Wesley. John Wesley est un homme qui a prêché la sainteté. À l'époque de Wesley, en Angleterre, écoutez ça, une femme ne serait pas sortie le soir à 8 heures, tellement c'était l'insécurité. Et Dieu a suscité un homme de l'église de Philadelphie, John Wesley, qui est allé vers l'Angleterre avec un message de sainteté. Ce n'est pas un évangéliste qui a prêché le message classique d'évangélisation. Lui, son ministère, ça a été de prêcher la sainteté et de ramener le pays vers la sainteté de Dieu. C'est inouï, mais le réveil a éclaté avec ces messages-là. J'ai les messages de Wesley dans ma bibliothèque. C'est impressionnant, c'est un homme qui a prêché la sainteté. Dans la même période, à peu près, en France, nous avions coupé la tête des rois et la France baignait dans le sang de la Révolution, tandis qu'en Angleterre, le pays était baigné dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi je dis pauvre France, pauvre terre pour laquelle nous avons besoin de prier. Une autre vague spirituelle a mis l'accent sur des grandes vérités de la vie du croyant. Par exemple, doctrine de l'union du croyant avec Jésus, dans sa mort, dans sa résurrection. Et des hommes de Dieu ont marqué cette période-là. Andrew Murray, Jane Penn Lewis, ce sont des hommes qui ont marqué par la doctrine, qui ont ramené l'Église dans une vie de communion avec Christ. Et puis, l'Église a repris conscience de sa lourde responsabilité à l'égard de tous les peuples encore plongés dans le paganisme. Et on a vu, dans toute cette période-là, un essor missionnaire extraordinaire. Des missionnaires sont partis, de plus en plus nombreux. C'est dans cette période-là qu'on entend parler d'un Hudson Taylor, d'un Charles Stud et d'autres encore. La Bible a été traduite dans des centaines de langues et s'accomplissait alors cette parole du Christ, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et Jésus dit, je viens bientôt. Philadelphie est caractérisée par la foi au retour de Jésus. C'est une doctrine qui a retrouvé sa place dans cette histoire de l'Église, une foi qui s'était considérablement affaiblie au cours des époques précédentes. Elle s'est ranimée en même temps qu'est apparu le besoin d'évangéliser. Et dans cette période-là, le désir de hâter le retour de Jésus a favorisé l'esprit missionnaire. Il y a eu à cœur d'atteindre les populations païennes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Jésus dit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, l'étau se resserre de plus en plus contre l'Église, partout, partout. Et franchement, je ne sais pas ce que va devenir notre pays. Mais je crois qu'il va se passer des choses en Europe. Je ne sais pas lesquelles, mais on sent que ça vient. Il nous reste peu de temps. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Et cet étau qui se resserre, c'est la preuve évidente de la proximité du retour de Jésus. Les portes ont été largement ouvertes et personne n'a pu les fermer pendant le temps marqué par le Seigneur. Mais je crois que le temps du jugement divin vient pour la terre. Et cependant, le Seigneur a veillé au rétablissement de son Église, je le répète, et on revient ce matin, et comme ça la boucle sera bouclée, le Seigneur a veillé au rétablissement de son Église en direction du christianisme apostolique, le fondement. Au XXe siècle, il s'amorça avec un mouvement de l'Esprit de Dieu dans le pays de Galles. Ce fut le grand réveil de 1904, et de ce réveil a pris naissance le mouvement mondial de Pentecôte, avec ses caractéristiques que l'on connaît, baptême du Saint-Esprit, parler en langue, les dons spirituels, diversité des langues, interprétation des langues, prophétie, une parole de sagesse, une parole de connaissance, des discernements des esprits, je vous parle comme c'est écrit dans le grec, la foi, les opérations de puissance et les liens. Et il est dit, tu as gardé la parole de la persévérance en moi ou la parole de la constance. Il s'agit de tout le message que Jésus adresse à l'Église en vue des persécutions à venir et par lesquelles il l'exhorte à prendre patience, à tenir bon, à persévérer jusqu'au retour de Jésus. Dans cette période-là, on a aussi compris que c'était bien d'évangéliser, mais quand on avait affaire aux défavorisés, il fallait une action sociale. Non pas que l'action sociale doit remplacer l'évangélisation, mais elle doit l'accompagner. Et c'est en cette période-là qu'est né le mouvement de l'armée du salut avec le général William Booth. C'est dans cette période, ce qu'on appelle la période de Philadelphie. Alors, aujourd'hui, l'armée du salut est un mouvement social. Mais à l'époque, il y avait des réunions de réveil. On prêchait la conversion, il y avait le fameux banc des pénitents, et les gens venaient se mettre à genoux devant quand ils voulaient se réconcilier avec Dieu. Il y avait une action du Saint-Esprit, et il faut veiller dans nos églises, c'est une parenthèse, pour que le social qui est indispensable ne prenne pas le pas sur l'essentiel qui est l'évangélisation. L'armée du salut, malheureusement, a sombré dans ce piège-là, et il faut que nous veillions, il faut tirer les leçons de l'histoire. Je résume pour Philadelphie, c'est l'église de la fin, mais l'église fidèle. Et cette église-là, elle existe aujourd'hui. Je résume, fidélité au Seigneur, défavorisée matériellement, mais riche spirituellement, attachée sans faille à la parole de Dieu, parole infaillible, parole suffisante, pleinement inspirée de Dieu, obéissante à la parole de Dieu, attachée à la personne de Christ et un formidable amour pour les perdus avec une vision missionnaire généralisée. Cette Église aura par son zèle missionnaire contribué plus qu'aucune autre à récolter dans le monde entier les âmes perdues. Vous savez qu'en Chine, aujourd'hui, il est impossible, je parle de l'Église, non pas celle qui est en rapport avec le gouvernement, je parle de la véritable Église, il est impossible de se réunir à des persécutions terribles. Donc les chrétiens se réunissent clandestinement, des églises de maisons clandestines. Savez-vous qu'en Chine aujourd'hui, il y a 25 000 conversions par jour au Christ? Ça me remplit de joie. Il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi Philadelphie dans le monde qui avance et qui est conquérante. Il est donc naturel que les promesses la concernant soient mises en rapport avec la Nouvelle Jérusalem. Vous avez lu cette promesse avec moi tout à l'heure, je ne m'y attarde pas. Et j'en viens, et on aura terminé la journée. J'aurais voulu terminer mieux que ça, mais Jésus ne peut pas terminer mieux que ça. Alors on va terminer comme lui. Laodicée. L'église de Laodicée ne représente pas une nouvelle période de l'histoire de l'église. Elle s'inscrit dans la même période que Philadelphie. C'est une église qui vit dans l'illusion et dans la tiédeur. Et cette opposition de nature, de caractère, de situation spirituelle entre ces deux églises correspond parfaitement à ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a dans le monde l'église de Philadelphie et il y a dans le monde l'église de Laodicée. Et l'histoire de l'église du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui présente les deux faces en contraste absolu. Laodicée, c'est l'Église qui connaît un travail de désagrégation où la foi est ébranlée et toute la vie de l'Église est secouée. Savez-vous que le nom Laodicée signifie « peuple juste » mais le peuple est devenu « propre juste » ou le peuple est devenu « peuple injuste ». Et vous allez voir comme c'est intéressant d'étudier la situation de la ville, de l'église dans la ville, par rapport au message de Christ. Laodicée, c'était la capitale de la Phrygie, en Asie mineure. Cette ville était considérable par sa population et par son commerce. Elle fabriquait de l'étoffe et des vêtements avec de la laine noire qui provenait de moutons élevés dans ces parages. Et Laodicée était très riche avec ce commerce-là. L'Église, dans Laodicée, n'avait pas réussi à échapper à ce courant matérialiste. Et au lieu d'être riche des richesses de Dieu, on s'occupait des richesses de la terre. Les chrétiens avaient dérapé. Laodicée, tu dis, je suis riche. Le portrait que fait Jésus de Laodicée est l'exacte peinture de ce que nous voyons actuellement d'une certaine église du 21e siècle, l'église d'Occident. Alors, je m'empresse de mettre un bémol à ça. Il y a des hommes de Dieu remarquables, il y a des pasteurs remarquables, fidèles, qui veulent rester attachés au Seigneur, béni soit-il. Il y a des églises qui veulent le sérieux, qui veulent la parole de Dieu, qui veulent s'attacher à Christ, on est d'accord. Je parle globalement. Pour moi, globalement, l'Occident, c'est Laodicée. Il suffit de voir l'état de l'église en Occident pour se rendre compte des choses. Il faut veiller à ce courant matérialiste parce qu'il peut nous polluer à notre insu. Et vous citez l'exemple d'un jeune foyer que nous avons connu dans une des églises où nous étions. C'est un jeune foyer qui n'avait pas trop les moyens au départ. Et pour la venue aux réunions, c'était les parents ou beaux-parents qui amenaient le jeune couple aux réunions. C'était des chrétiens. Puis ils ont fait leur petit trou financièrement, tout ça, petit à petit. Et ils ont pu acheter une voiture. Ils ont acheté une voiture à un converti. Parce qu'à partir du moment où ils ont acheté la voiture, la voiture les a emmenés partout sauf aux réunions, et ils ont décroché du Seigneur, la voiture a été l'occasion de leur chute. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions, ça c'est Laodicée. Le matérialisme qui s'engrouve dans le foyer, et subitement, on ne s'occupe plus de la richesse du Seigneur, on se laisse manger par les choses de la terre. Tu dis, je suis riche, me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est terrible. C'est une église qui est satisfaite d'elle-même. elle ne voit pas ce qu'elle pourrait désirer encore. C'est terrible. Mais vous allez voir, ça finit pas en beauté. Tu dis, tu ne sais pas, Jésus dit, tu ne sais pas que tu es aveugle. C'est une église qui connaît un aveuglement total. Alors il y a eu les belles cérémonies, il y a eu les travaux des théologiens au cours des dizaines d'années, il y a eu une action sociale mise à la place de l'évangélisation. Je vais le dire parce que je sais que mon frère est d'accord avec ça, on en a parlé entre nous. Il y a les rapprochements œcuméniques. Alors je suis pour l'unité, hein. Mais l'unité sur la même chose, sur ce qu'on croit. Quand Jésus a prié dans Jean 17 pour l'unité, ce n'est pas une unité sur n'importe quelle base. Dans cette même prière sur l'unité, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Donc il y a l'unité spirituelle autour des valeurs apostoliques du christianisme et il y a un œcuménisme qui est une unité malsaine. Et ce qui a coulé la Odyssée, c'est justement cet œcuménisme, ces rapprochements misérables. Et tout ça donne l'impression à Laodicée d'être riche et de s'être enrichi. Le pape François est quand même allé dans un pays d'Afrique récemment, appelant les musulmans ses frères. Alors qu'on soit frère en Adam, je veux bien, ça c'est sûr. Mais Allah, c'est pas mon Dieu. Moi, mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Qui me donne d'aller vers l'autre avec amour, mais qui ne prend pas la Kalachnikov pour forcer l'autre à croire. Alors, moi j'ai le respect des hommes, de tous les êtres humains. Il ne s'agit pas de haïr les hommes, mais combattre les idées, oui. Ce n'est pas pareil, il y a l'être humain et il y a ce qu'il croit. Et pour moi, il y a des amalgames, il y a des unités qui ne sont pas possibles, mais que se permet la Odyssée. C'est une église qui vit dans l'illusion, elle fait preuve d'orgueil. Elle s'imagine avoir compris le christianisme mieux qu'aucune autre époque. Et comme on le disait pour autre chose aujourd'hui, c'est certains responsables de l'église de Laodicée se flattent d'avoir des entrées dans les milieux politiques. Certains pensent que l'œcuménisme est la voie menant à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, mais nous ne sommes pas appelés à établir le royaume de Dieu sur la terre. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Nous sommes appelés à gagner les âmes à Jésus-Christ. Alléluia, ma sœur. Parfois, on est un peu stupide. Il y avait un jeune prédicateur qui, un jour, a vu un avocat venir dans son église et il s'est converti, le gars. L'avocat s'est converti. Alors le jeune pasteur, la tête un petit peu enfarinée, va trouver un ancien de notre mouvement à l'époque, un homme de Dieu, une colonne, et lui dit, je ne vous dis pas le nom, il dit, frère, vous savez quoi? Dans mon assemblée, il y a un avocat qui vient de se convertir. Il a bien fait. Ben oui. Si c'est un homme tout simple, il se convertit, ben tant mieux qu'il y ait la différence avec l'avocat. Il y a des choses comme ça qui... On sent que le monde est là, derrière, tout ça. Faut veiller. C'est une église qui vit dans l'illusion et l'inconscience de la réalité. Elle n'entend pas la voix du Seigneur. Jésus dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, tu ne sais pas que tu es, écoutez bien, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'apparence de progrès, de richesse, recouvre en fait la plus grande pauvreté spirituelle. Les vrais biens spirituels sont absents de Laodicée. Et l'activité déployée par Laodicée ne peut avoir l'approbation du Seigneur parce qu'on assiste à la disparition de la nouvelle naissance, de l'autorité absolue de la parole de Dieu, de la confirmation de l'Évangile par les miracles, de la vie surnaturelle du Saint-Esprit. Il y a aujourd'hui des églises de Pentecôte, dites évangéliques, etc., qui ne prêchent plus certaines vérités fondamentales de l'Évangile. Il y a aujourd'hui, dans certaines églises évangéliques, des croyants qui ne croient même plus au retour de Jésus.
Là, c'est la vérité.
Ouais. Alors, écoutez bien. Le remède est prescrit par Jésus lui-même. Il dit, je te conseille. Est-ce qu'il dit cela parce qu'il est l'admirable conseiller ? J'aimerais tellement. Je voudrais que ce soit ça. J'espère que c'est ça. Mais je me demande s'il dit « je te conseille » parce qu'en définitive, il n'est plus en état de donner des ordres. Il ne peut que conseiller. On s'est tellement éloigné de lui qu'il ne peut que nous donner des conseils. « Je te conseille ». Et ce qui va suivre est un langage symbolique. Nous, les chrétiens, on est familiarisés avec ces symboles. Je t'en conseille d'acheter de l'or. Alors, c'est sûrement pas de l'or. C'est la foi, dont Pierre nous dit qu'elle est plus précieuse que l'or périssable. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs, image de pureté et de sainteté, fruit du salut. Je te conseille d'acheter de moi un collyre, c'est-à-dire l'onction de l'esprit qui communique le discernement nécessaire pour connaître la vérité. Mais la Odyssée ignore ces choses. Elle n'en sent même pas le besoin. Et si elle ne les réclame pas, elle va périr. Alors vient alors l'appel de Jésus au verset 20, « Et donc du zèle et repens-toi ». Et c'est un vibrant appel à la repentance, jusqu'au dernier moment, jusqu'au temps ultime de la fin, la grâce de Dieu va lui être offerte. Je vais terminer en vous parlant de Laodicée et de nous. Nous ne verrons pas dans cette dernière partie de l'étude l'église de Laodicée sous l'éclairage de l'église d'Occident en général, mais réfléchir à nos vies chrétiennes sur le plan individuel. Cet après-midi, moi, est-ce que je suis Laodicée ou est-ce que je suis Philadelphie ? Je saute certaines choses qui ne sont pas indispensables. Le Seigneur Jésus dit, enfin, ou plutôt il donne quatre choses. Il donne une menace. Eh oui. Une menace. Je te vomirai. Il donne un conseil. Je te conseille. Il donne une exhortation. Aie du zèle et repens-toi. Il donne des promesses. Parce que sa parole est vraie. Au début du message, il s'appelle l'Amen. C'est-à-dire celui dans lequel tout est vrai. On va bientôt finir, mais je vais quand même m'arrêter là tranquillement sur tout ce qui arrive. C'est pour ça que je suis allé vite pour le reste. Philadelphie a eu des avantages extraordinaires. Laodicée, pardon, a eu des avantages extraordinaires. Parce qu'on ne parle pas d'elle seulement là, on parle d'elle dans le Nouveau Testament, il faut aller chercher ça. Elle était située à 80 km au sud-est de Philadelphie. Elle n'était donc pas loin géographiquement, mais tellement loin spirituellement. C'est curieux comme à 80 km, des situations spirituelles peuvent être diamétralement opposées. Et je me dis qu'une église aujourd'hui peut être Philadelphie, et à 80 km au sud-est, vous trouvez une église qui est Laodicée. Vous voulez qu'on rétrécisse le cercle ? Est-ce que dans l'église de Rennes demain matin, il y aurait un foyer qui soit Philadelphie et deux ou trois rangs derrière, un foyer qui soit Laodicée ? C'est possible. Vous voulez qu'on rétrécisse le cercle ? Et vous allez me dire, oh là, je sens le vent venir. Est-ce qu'il se peut que dans un foyer. Et là, on parle plus de 80 km, là, on parle d'être sous le même toit. Il y en ait un qui soit à Philadelphie et l'autre qui soit à Laodicée. On a connu de ces couples, et Robert a dû connaître ça aussi, tous les pasteurs connaissent ça, des foyers qui semblaient fidèles. Mais on s'est rendu compte avec le temps qu'il y en a un qui tirait l'autre. Et celui qui tirait l'autre est décédé. Il est parti le premier. Et à partir de ce moment-là, l'autre a complètement décliné et laissé le Seigneur. Dans le couple, il y avait Philadelphie et il y avait Laodicée. Laodicée avait bénéficié de solides avantages spirituels. J'apprends dans ma Bible que Paul avait travaillé et il avait combattu pour cette église. Ah bon ? Vous allez me dire comment vous le savez ? Par l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 1 et 2, Paul dit à l'église de Colosse, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Quand un apôtre Paul combat pour une église, c'est pas rien. Quel privilège d'avoir été au bénéfice d'un tel ministère. C'est pas tout. Épaphras, compagnon de Paul, avait combattu dans ses prières pour Laodicée. Vous allez me dire, mais comment vous savez ça ? Colossiens chapitre 4, versets 12 et 13. « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. » Merveilleux. C'est pas tout. Laodicée reçoit un jour les salutations de Paul. Comment vous le savez ? Colossiens chapitre 4, verset 15. Paul écrit à Colosse, « Saluez les frères qui sont à Laodicée. » Mais ça veut dire quoi ? Que l'église de Laodicée était dans le cœur de Paul, dans les affections de Paul. C'est pas rien, ça. Laodicée avait bénéficié de la lettre adressée aux Colossiens. Vous allez me dire, mais vous savez ça comment ? Colossiens 4, 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et si vous lisez l'épître aux Colossiens, quel hymne pendant plusieurs chapitres à Christ, à ce qu'il est, à sa richesse, à notre vie en lui. Laodicée avait profité de ça. Laodicée avait reçu une lettre de Paul. Ah, vous allez dire, mais j'ai pas trouvé la lettre à Laodicée dans ma Bible. C'est normal, elle n'y est pas. Vous allez dire, mais comment vous savez que Laodicée a reçu une lettre de Paul ? Ah, dans l'Épître aux Colossiens. Au chapitre 4, verset 16, où Paul dit, et à Colosse, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Je résume. Un ministère comme Paul avait combattu et travaillé pour l'Église. Épaphras, compagnon de Paul, avait combattu dans ses prières pour cette Église-là. Paul adresse ses salutations à l'Église, c'est la preuve de son amour pour les frères et sœurs. Laodicée avait bénéficié de la lettre adressée aux Colossiens et Laodicée avait bénéficié d'une lettre personnelle de l'apôtre Paul. Elle avait eu la parole de Dieu. Les ministères, les prières, les affections et la parole de Dieu. Et c'est ce qu'elle devient. Réalisons notre privilège. Les ministères, les prières des frères, la parole de Dieu, l'affection des frères. Mais il faut que tout ça, ça nous serve. Il faut que ce soit un dépôt qui produise du fruit. Les mots spirituels de Laodicée sont au nombre de 8. Tiède. Elle vit dans l'illusion. Elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, et sans Jésus. Et je dis bien sans Jésus. Le temps passe. Jésus parle de tiédeur. Laodicée se trouve dans l'état spirituel le plus triste et le plus dangereux. Être froid, c'est la condition de l'homme naturel, celui que j'appellerais inconverti. Il est étranger à la vie de Dieu. C'est normal, il est froid. C'est le mort d'Éphésiens 2. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Être bouillant, c'est l'état de celui qui est tout entier pénétré du feu de l'Esprit de Dieu qui sanctifie. Paul dit aux Romains, « Ayez du zèle, soyez fervent d'esprit. » Mais alors être tiède, il y a deux possibilités. Soit tu as été bouillant et la température a baissé, soit tu étais froid et tu n'as pas été rendu assez chaud. Vous comprenez ce que je veux dire là? Ouais. Mais ouais. Enfin, dans un sens comme dans l'autre, c'est pas bon. C'est cette position intermédiaire entre être froid et bouillant. Alors être tiède, c'est connaître l'Évangile, mais sans avoir laissé tous les moyens de la grâce de Dieu et tout l'amour du Sauveur gagner l'être entier pour l'arracher à lui-même et au monde. Et c'est une position de partage entre le froid et le bouillant. Et Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, aimer Dieu et Mammon. Il faut choisir. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Et chez le tiède, il n'y a ni force, ni activité, ni progrès, ni sentiment de ce qui lui manque. C'est un état stationnaire de paresse morale, d'impuissance, de langueur. Pourquoi Jésus préfère-t-il le froid au tiède? Parce que c'est quand même fort la parole de Jésus. Puisses-tu être froid ou bouillant? Pourquoi est-ce qu'il préfère le froid au tiède? Le premier ne peut se faire aucune illusion. Il est froid, il se plaît comme ça, et il n'a pas envie de changer. Ou alors il ne sait pas qu'il est froid, mais bon, voilà. Tandis que le second, il vit dans cette erreur et il y reste. Pour lui, l'Évangile est devenu un sel sans saveur. Et vous savez, quand il y a quelque chose qui n'est pas très frais, pas très bon, excusez-moi de vous le dire, nous devons être, ou plutôt Christ doit être en nous et nous dans le Christ. Mais si je prétends être dans le Christ comme un tiède, ça va faire l'aller-retour, hein, excusez-moi. Ça va faire l'aller-retour. Je ne peux pas être dans le Christ tiède. Le chrétien qui est dans le Christ, il est forcément bouillant. Et s'il prétend être dans le Christ tiède, il sera vomi. L'illusion, Laodicée vit dans l'illusion à l'égard de son niveau spirituel. Malheureux, un terrible sort l'attend, je te vomirai. Misérable, pauvre. Laodicée est riche en biens spirituels, mais elle est dépourvue des biens, enfin elle est riche en biens matériels, dépourvue des biens spirituels. Philadelphie est pauvre dans les biens matériels, mais riche dans les biens spirituels, c'est l'inverse. Aveugle. Ah, c'est intéressant, tiens, je vous ai parlé des vêtements blancs, puis je vous ai parlé de la laine noire, vous savez, des moutons. C'est intéressant ce que Jésus dit, tu es aveugle. Savez-vous qu'il y avait à Laodicée, dans la ville, un centre médical où se préparait ce qui était connu comme la célèbre poudre phrygienne et qui servait au traitement des ophtalmies. Il y avait ce centre médical dans la ville de Laodicée, avec ce fameux collyre, faite avec la poudre phrygienne pour guérir les gens de l'ophtalmie. Jésus ne manque pas d'ironie là. T'as un centre médical dans la ville pour soigner les ophtalmies et tu vois rien sur le plan spirituel? Alors je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux. Tu es nu, dépourvu de la justice de Christ, seul vêtement valable devant Dieu. Et tous ces termes sont donc accumulés pour convaincre le tiède de sa profonde misère et pour l'alerter sur les dangers qu'elle lui fait courir. Quel est le remède? Qu'est-ce qui manque à Laodicée? Elle peut l'acheter du Seigneur. Je te conseille d'acheter de moi. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'on achète sans argent. Alléluia. Ésaïe 55, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Enfin si, quand même. On va payer de notre personne, de nos renoncements, de notre séparation d'avec le monde. Et je vais terminer par quelque chose qui me tient tellement à cœur. Ça fait des années que je médite sur Laodicée. Au fur et à mesure, le Seigneur me montre des choses. Il est à la porte. Et les évangélistes prennent ce texte pour faire de l'évangélisation. Mais Jésus n'est pas à la porte des inconvertis. Il est à la porte de son Église. Je me tiens à la porte. Et vous savez quoi? Dans l'assemblée, on donne le ton et l'assemblée chante « Dieu est là ». Chantez ça, Église. Parce qu'il n'est pas là. Mais on chante qu'il est là. Mais il n'est pas là. L'Église a un local, un pasteur, puisque c'est adressé au pasteur, un conseil d'administration. Je vais moderniser. Une chorale, un orchestre, un programme, plein de choses. Et Jésus est dehors. Et personne ne s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte. Ça roule, ça baigne dans l'huile, c'est pas quelle huile, certainement l'huile de vidange, mais pas autre chose que ça. Ça baigne. Avec un Christ dehors. Et personne ne se rend compte que Jésus n'est plus dedans. Il est à la porte et il frappe. Et ce qui suit me montre ce qui va se passer dans nos églises. Et là, je vous le dis, c'est enregistré et j'assume, je ne vous prêche pas maintenant, je vous prophétise. Qu'est-ce qui va se passer ? Bientôt dans nos églises. Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, il ne dit pas à l'église, vous, Laodicée, si vous entendez ma voix en tant qu'église, ouvrez la porte. Ce n'est plus possible, on n'en est plus là. Vous allez comprendre ce que je vais dire, ça va être du chacun pour soi. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire le frère qui joue de la batterie? C'est son problème. Mais, et la sœur qui fait l'accueil? C'est son problème. Est-ce que tu entends ma voix? Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire mon père? T'occupe pas. Toi, en tant que jeune fille, entends ma voix. Mais, et mon mari, Seigneur, qu'est-ce que toi tu vas faire? C'est-à-dire que je ne vais pas m'occuper de savoir si l'autre va le faire. Ah, Seigneur, s'il changeait lui, qu'est-ce que ce serait bien notre église? Non mais vous dites pas ça ici, vous. Mais tout le monde ailleurs dit ça. Pour que ça change, il faut que l'autre change. Non, 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 faut que tu changes. Si quelqu'un entend ma voix, et je vais vous dire quelque chose, est-ce que vous croyez que Paris peut être balayé en 5 minutes? Qui croit ça, levez la main. Oh là là, vous avez la réponse? Vous trichez alors. Quels sont ceux qui ont levé la main et qui n'ont pas la réponse? Alors dites-moi, comment on peut balayer Paris en 5 minutes? Ben oui, chacun balaye devant chez soi. Et vous savez comment une église peut changer rapidement et du tout au tout? c'est d'entendre Jésus frapper à notre porte et de dire « Seigneur, je ne m'occupe pas de ce que va faire l'autre, j'entends ta voix et j'ouvre ». C'est un appel individuel, un appel personnel, et je crois que ça va être le travail du Saint-Esprit dans nos églises. Dieu va chercher un peuple dans son église. Tout ce qui est église dans nos locaux ne sont pas l'église. Je l'affirme avec force. Tout ce qui est église dans nos églises ne sont pas l'église. Et Dieu va saisir son peuple. Il est à la porte et il frappe si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte. Mais enfin, Seigneur, tu as la puissance d'ouvrir la porte. Tu n'as même pas besoin de clé. Ah oui, mais il ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Il veut que ce soit une décision volontaire. Tu sens ton besoin et tu lui ouvres la porte. Et là, ça montre bien qu'on est à la fin de la fin. Parce que Jésus dit, je vais entrer. Puis là, il y a un tête-à-tête. C'est vraiment personnel. Ça va être entre lui et moi, moi et lui. Et il ne parle pas de petit déjeuner. Il ne parle pas du repas de midi. Il dit, je souperai. C'est la fin. On est à la fin de la fin. On est à la fin de la fin. L'heure est tardive et c'est le moment d'ouvrir. Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est l'Église qui a encore l'appel de la grâce. Elle est en mauvaise posture, mais elle peut encore s'en sortir. Avec le Seigneur, c'est jamais désespéré. Et à un moment donné, ce sera trop tard, mais ce n'est pas trop tard. Et l'Occident, je suis un rêveur peut-être, mais l'Occident a encore une chance. L'Occident peut encore connaître une visitation de Dieu. Je prie de tout mon cœur pour mon vieux continent d'Europe. Je prie pour mon pays parce que je crois qu'il peut encore se passer quelque chose. En attendant, vous l'avez compris, le problème n'est pas de savoir ce que va faire l'autre. Mais en cette fin de journée, nous allons rentrer chez nous. Nous avons beaucoup mangé aujourd'hui. Il faudra que tout ça, ça se décante, ça digère. Mais nous allons au moins prendre cette résolution, Seigneur. Je ne veux surtout pas que tu sois en dehors de ma vie. Bien sûr que je t'ouvre, bien sûr. Et je veux ce tête-à-tête, je veux cette relation avec toi, personnelle. Ça ne va pas m'empêcher, bien sûr, de communier avec les autres. Mon contact personnel va me projeter vers les autres. Moi, je crois à la communion fraternelle, je crois à l'Église. Mais qu'est-ce que c'est que l'Église? Sinon le rassemblement de gens qui ont une communion personnelle avec Christ d'abord. Et la qualité de nos réunions, c'est ce que nous allons apporter aux frères, aux sœurs, de notre communion personnelle avec Christ. Demain, je vais louer le Seigneur. Ma louange va faire du bien en fonction de ce que j'aurai de communion avec Christ. Vous comprenez que ça se vit d'abord avec le Christ, et après, ça se partage dans la communion fraternelle. Alors oui, je crois que nous pouvons dire à Jésus, Seigneur, surtout pas en dehors de ma vie, surtout pas à la porte. Il faut que tu sois à table avec moi, qu'on ait ce tête-à-tête constant, une relation personnelle avec Christ. Vous savez, il y a bien des vies de prière qui consistent à demander à Dieu de guérir l'oncle, la tante, le cousin. On prie le matin, Seigneur bénis mon café au lait, garde-moi sur la route et que le patron soit gentil. C'est pas la prière, ça. Depuis combien de temps t'es pas à genoux pour lui? Parce que souvent, faut le dire, moi le premier, on lui amène le paquet de linge sale, tous nos problèmes, et on y va, et on y va, et on demande, et on demande. À tel point que quand on se relève, il a même pas eu le temps de nous dire une chose. Parce qu'on est là, et Seigneur t'es là, et tu m'écoutes, hein? Avez-vous remarqué, il y a quelque chose de très particulier dans la Bible, enfin je m'arrête parce que la machine est en route, là j'ai l'impression que... Dieu a parlé à Abraham, il l'a visité. Et il y a ce texte, parce que tout est un pesant d'or dans la Bible. Quand Dieu eut fini de parler à Abraham, il s'en alla. Pas Abraham, Dieu. C'est Dieu qui parle premier dans l'entretien. Quand Dieu a fini de te parler, il prend l'initiative de partir. Mais ce n'est pas à toi de t'en aller tant qu'il ne t'a pas dit tout ce qu'il avait à te dire. Et souvent, avouez que c'est comme ça, on prie à genoux ou pas à genoux, bon, les postures physiques, après on discute là-dessus, c'est bon. Mais on est là, et on parle, et puis on s'en va. On dit à ce soir ou à demain, je ne sais pas. Mais il s'en va, c'est lui qui s'en va quand il a fini avec toi. Et tant qu'il n'a pas fini, tu restes. Il va dire, mais c'est l'heure d'aller au travail, mais le Seigneur est sage, il connaît tout. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire, vous comprenez bien. Faites pas semblant de ne pas comprendre. Il faut que nous revoyions tout ça, mes frères et sœurs, parce que ce n'est pas désespéré. Là, il y a d'excellentes choses que nous allons vivre si nous le voulons. Dieu est un Dieu magnifique. Les jeunes filles de Jérusalem ont dit à la Sulamite, la bien-aimée, « Mais qu'est-ce qu'il a, ton bien-aimé, de plus qu'un autre ?» Oh, qu'est-ce qu'elles n'avaient pas dit là ? Le flot d'amour jaillit. Mais mon bien-aimé, mais il est ceci, cela, elle parle de ses jambes, de sa tête, de son bas, de sa main, parle de tout, la fontaine jaillit. Mais qu'est-ce qu'il a de plus, ton Jésus, que Bouddha ou... Ha, qu'est-ce qu'il a de plus? Eh, alors on y va, on vient de prendre le souper avec lui, on en a plein, il en a plein l'assiette, plein le cœur, et on y va. C'est ça mon évangile, et c'est ça notre christianisme. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'en ai terminé. Pour cette journée. Demain, il va falloir nous préparer pour le troisième jour. Alléluia.